j'ai vu plusieurs personnes quitter leur église juste à cause de petits problèmes relationnels, à cause d'autres personnes qu'ils ne supportaient plus. Aïe, il m'a marché dessus. Je sortais et pourtant la personne m'a vu, mais elle ne m'a pas dit bonjour. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire aux personnes qui désirent être membres de l'Église qu'un jour, quelqu'un va vous marcher dessus. Quelqu'un vous blessera. C'est inévitable. Pour certains, comme je disais, pour elles, ce n'est pas normal que dans l'Église, il puisse y avoir des problèmes de relations. C'est censé être le paradis sur terre, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec ça? Non. Et moi, je dis, non. C'est normal qu'il y ait des problèmes de relations. J'ai vu aussi plusieurs couples qui souffrent ou divorcent à cause de petites choses chez l'autre qu'ils avaient du mal à supporter. Voilà pourquoi je dis souvent aux couples qui veulent se marier dans votre vie à deux, il y aura, j'ai envie de dire peut-être, mais des fois je n'ose ne pas le dire, il y aura des choses qui vont vous agacer chez l'autre. Des choses qui ne seront pas faciles à supporter. Donc avant de vous marier, apprenez à regarder en face non seulement les qualités, mais aussi les défauts de l'autre. Vous devez dès maintenant accepter l'autre totalement avec ses qualités, sans oublier ses défauts et ses faiblesses. Pour certains, ce n'est pas normal que mon conjoint puisse parfois m'énerver, me blesser et casser le côté romantique de la vie du couple. Moi, je dis, si, c'est normal. Et il m'est arrivé personnellement à plusieurs reprises, que ce soit dans des moments où vraiment, j'ai pas assuré et j'ai blessé. Ou d'autres moments où je dis, j'ai assuré, là, j'ai bien dit les choses et j'ai blessé. Combien de fois on blesse les autres? Et souvent, on pense que nous, on est mieux que les autres. Les autres, c'est eux qui blessent. Moi, j'ai nickel. Mais pourtant, il peut nous arriver, nous aussi, d'agacer les autres et de blesser aussi. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer nos problèmes de relation, n'est-ce pas? Mais il y a une chose qui me paraît essentielle à apprendre. C'est de se supporter les uns les autres. Et c'est ce que Nathalie a commencé à dire. Un beau témoignage, merci beaucoup. Ce matin, nous continuons notre série de messages qui s'intitule donc « L'amour en action ». Dans la parole de Dieu, il y a une trentaine de verbes différents associés à l'expression « les uns les autres ». Relève 37. Nous en avons relevé 4 pour notre série message. Nous avons vu édifiez-vous les uns les autres, accueillez-vous les uns les autres, ainsi que pratiquez l'hospitalité. Et ce matin, comme vous l'avez entendu, nous allons voir supportez-vous les uns les autres. Et je mentionnerai aussi le pardon. J'aimerais répondre donc à cette question, à une question. Comment aimer quelqu'un que j'ai du mal à supporter? Question pour un champion, n'est-ce pas? Le texte que nous allons lire maintenant va nous aider à répondre à cette question. Nous avons déjà entendu, nous allons le reprendre. Colossiens chapitre 3, nous allons lire les versets 12 à 14. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 14. Si vous souhaitez le prendre dans votre Bible, je vous laisse un peu de temps pour trouver Colossiens chapitre 3. Versets 12 à 14. Je lis. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Plus il avance, plus on a envie de dire stop, 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 stop. Et là, c'est la summum. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement,
le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Non! Là, c'est balèze. Et venez ainsi, et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Fin de citation. Comment aimer quelqu'un que j'ai du mal à supporter? Le texte donne ici, on pourrait dire, quatre réponses. La première réponse est celle-ci. Me rappeler l'amour de Dieu. Colossiens, donc, en Colossiens, dans le verset 12, nous avons lu ceci. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, et ensuite il poursuit ce qu'il a, sa pensée. Mais il commence par quelque chose sur lequel nous devons nous poser. Tout commence là. Avant de pouvoir aimer et supporter l'autre, j'ai besoin d'être aimé. La Bible dit ici que Dieu m'aime. Son amour s'est manifesté en me choisissant pour lui appartenir. C'est très fort. C'est comme une personne amoureuse qui veut conquérir le cœur d'une autre personne. Elle l'a choisi parce qu'elle l'aime. Dieu nous a choisis dans le sens qu'il nous a cherchés avant même que nous le cherchions. Comment a-t-il fait? La Bible dit qu'il est venu sur terre par Jésus-Christ. Il a donné sa vie. Il est mort sur une croix. Il a ainsi rendu possible le pardon de nos péchés, de nos désobéissances à la volonté de Dieu, afin que nous puissions recevoir la vie éternelle, une relation rétablie avec lui pour toujours. Dieu nous aime tellement qu'il a donné sa vie pour nous. Il fait aussi tout pour nous attirer à lui par l'action de son esprit. Quel immense amour! Dieu nous cherche, nous veut, nous désire. C'est cet amour qui doit nous saisir, cet amour qui doit nous émouvoir, nous motiver, nous pousser à l'aimer toujours plus et aussi à aimer les autres. Bien plus, à les supporter. Pour supporter quelqu'un, j'ai besoin de me rappeler l'amour de Dieu. Et pour m'aider, je peux faire beaucoup de choses. Il y a certainement des choses qui vous aident à vous rappeler l'amour de Dieu. Certains seront beaucoup plus à lire des textes et des promesses bibliques. D'autres vont être encouragés et se rappeler de l'amour de Dieu en écoutant de la musique, des chants de louange ou en chantant tout simplement. J'entends souvent des gens me dire « Ouais, je chante des chants de louange dans ma voiture. » Peut-être pas dans l'erreur, mais voilà, il peut chanter les chants de louange, ça nous rappelle combien Dieu nous aime. Que chacun voit ce qu'il aide, mais ayons cette habitude, rappelons-nous sans cesse combien nous sommes aimés de Dieu. C'est important. Donc tout commence là. Première habitude à avoir, c'est se rappeler l'amour de Dieu. Comment aimer quelqu'un que j'ai du mal à supporter? Deuxièmement, me revêtir de l'amour. Colossiens 3, verset 12 dit ceci. Revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Et l'apôtre Paul reprend le terme revêtez-vous dans le verset 14. Il dit par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Plus on grandit, on comprend et on grandit dans l'amour de Dieu, plus on a envie de lui plaire et de lui obéir. L'apôtre Paul est en train de nous dire ceci. Puisque Dieu vous aime, exprimez votre reconnaissance par une vie débordante d'amour envers les autres. Prenons un temps pour comprendre ce que signifient tous ces mots, les versets 12 et 14. Abondante bonté, ardente bonté, c'est avoir une compassion qui vient du fond du cœur, un profond sentiment de compassion venant des entrailles, un cœur plein de tendresse, des entrailles de miséricorde, compassion profonde, intime du cœur, pour les malheureux, les faibles, les coupables. Bienveillance, c'est avoir de la bonté, de la générosité. Humilité, c'est avoir de la modestie, avoir une opinion humble de soi-même, un sens profond de sa petitesse morale. Douceur, c'est avoir de la gentillesse et de l'amabilité. Patience, c'est avoir endurance, constance, persévérance, longanimité. L'amour, on pourrait dire, c'est avoir toutes ces qualités qu'on vient de d'énumérer, qui sont des manifestations de l'amour. Ces qualités font vraiment penser à l'un des textes les plus connus de la Bible. 1 Corinthiens 13. Merci Marie-Christine. Voici ce que dit 1 Corinthiens 13. L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'écrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice, la triste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. Ici un amour pas limité à quelques personnes, mais un amour qui condamne à tous. Paul encourage ses lecteurs à se revêtir de toutes les qualités de l'amour. Se revêtir, c'est comme mettre sur nous un vêtement. Nous ne devons pas avoir comme vêtement la colère, l'amertume, la médisance, l'orgueil, l'égoïsme, etc. Notre vêtement doit être d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur. Patience, l'amour. Dire de se revêtir, c'est dire en fait de rechercher sans cesse l'amour et ses qualités. Tout faire pour vivre pleinement dans l'amour pour l'autre, quelles que soient les circonstances. Pourquoi ? Parce que Dieu nous aime. Comment aimer quelqu'un que j'ai du mal à aimer, à supporter ? Me rappeler l'amour de Dieu, me revêtir de l'amour. Et troisièmement, tout simplement, supporter les autres. Et donc, c'est le verset 13, supportez-vous les uns les autres. Là, ça devient plus concret. Si Paul dit de se supporter les uns les autres, c'est qu'il y a des choses à supporter. Quoi ? Plusieurs. Voici les choses qu'on doit supporter dans les relations. J'en énumère quelques-uns. Quelques-unes. Les mauvais caractères, les mauvaises humeurs, les opinions, les choix différents de nous, les différentes manières de faire, car différentes cultures, différents âges, etc. Tout ce qui est dans les différences. Et on pourrait faire toute une liste encore. La manifestation de l'amour dans l'Église de Dieu n'est pas chose facile. Et souvent, j'aime dire, nous sommes une église multiculturelle, multigénérationnelle, multisociale. On en est fiers, mais aïe aïe aïe. C'est un défi aussi de vivre cela ensemble. Comme diraient plusieurs, on n'est pas dans un monde de bisounours. Qu'est-ce que ça veut dire ? Supportez-vous les uns les autres. Les dictionnaires nous apprennent que c'est subir, éprouver les conséquences pénibles d'un événement, d'un état ou d'une action sans faillir, avec constance, endurer un affront, une injure, sans réagir, sans se rebeller, admettre quelqu'un, tolérer sa présence, son comportement, avoir de la patience pour une personne, s'en accommoder, et ça continue. Le mot grec employé par l'apôtre Paul a les mêmes consonances que le français. Aneko komai faisait originellement partie du langage militaire. On l'employait quand il s'agissait de tenir sous la pression de l'ennemi. Dans le grec profane, il a le sens de retenir, persévérer, supporter. Plusieurs fois, nous retrouvons le terme supporter dans le Nouveau Testament, certainement parce que l'Église avait besoin d'entendre. Nous trouvons donc l'idée de quelque chose de désagréable ou de pénible à endurer sans réagir. On pourrait y ajouter l'idée de porter. Soutenir. Pourquoi Paul dit à ses lecteurs de se supporter plutôt que de s'aimer les uns les autres ? Paul aurait pu juste dire « aimez-vous les uns les autres ». Pourquoi ajouter ce mot, donner ce mot « supporter » ? Et j'aime comment Alfred Kuhn, dans son livre « Les uns les autres » répond à cette question. Je vais juste citer deux points sur les trois qu'il propose. Premier point, parce que sans doute, les expériences de l'apôtre Paul avec les chrétiens lui ont appris que les exhortations trop élevées passent par-dessus la tête des auditeurs, Parler de l'amour est tellement sublime que l'on nage dans la stratosphère de la spiritualité. C'est pourquoi il préfère viser un peu plus bas et lance cette exhortation comme un direct à l'estomac. Supportez-vous. Deuxièmement, pour être plus efficace, il faut être précis. Aimer est trop général. Supporter suggère des applications très précises auxquelles on ne peut pas échapper par un débordement de bons sentiments. Il est facile d'aimer tous les chrétiens de Chine, d'Amérique, beaucoup moins de supporter ceux de son église. Et quand il dit cela, son église locale. Fin de citation. Mes amis, s'aimer les uns les autres, c'est aussi se supporter les uns les autres. La tendance humaine, quand une personne nous embête et nous agace, notre tendance est de fuir, de rejeter cette personne, de ne plus chercher de relation, de ne plus agir avec amour, de médire sur elle. Mais la volonté de Dieu pour nous est de nous supporter les uns les autres. C'est de ne pas fuir. Mais attention, il faut nuancer. Il faut vraiment nuancer. Il y a des situations où nous devons fuir. Et ça fait pas très longtemps, j'avais dit à une personne qui était dans son travail, il faut que tu fuis. Et aujourd'hui, elle est très contente d'avoir fui. Il y a des situations, des personnes, des situations insupportables dans le vrai sens du mot. C'est-à-dire qu'il nous est impossible de supporter sans subir des dommages graves dans notre personnalité ou même dans notre santé. Jésus n'a pas supporté que les vendeurs du temple ternissent l'honneur de Dieu, ni que les pharisiens lisent sur l'épaule des autres des fardeaux qu'ils ne consentaient pas à porter eux-mêmes. Et un texte dit qu'il dévore les maisons des veuves et des orphelins et répand le sang des innocents. Et Jésus est intervenu. Il n'est pas resté sans rien dire. L'apôtre Paul n'a pas non plus accepté une fois d'être giflé sans l'avoir mérité. Il faut cela dans Acte 23. Dieu ne nous encourage donc pas à nous laisser détruire par les autres ou à ne pas agir quand cela est nécessaire. Supporter les autres, c'est apprendre à accepter les autres tels qu'ils sont, sans chercher à les changer et sans jugement. C'est apprendre à supporter certaines manières de faire qui ne nous plaisent pas. C'est aussi supporter les autres avec leurs défauts, leurs faiblesses, leurs lacunes. Être patient avec ceux qui nous agacent. Faire preuve de tolérance et de patience envers tous, et notamment envers les personnes avec lesquelles nous n'avons pas spécialement d'atomes crochus. Avec les gens à problèmes qui nous semblent difficiles à supporter, avec leurs faiblesses, leurs drôles de manières, leurs bizarreries, sans les cautionner, bien sûr, ni nous compromettre pour autant, mais en faisant preuve de miséricorde et d'indulgence, même si elles pêchent contre nous. Notre aptitude à supporter les autres est le baromètre par excellence indiquant la nature et l'étendue de notre amour pour le prochain. Comment savoir si nous ne supportons pas, nous ne supportons pas les autres avec amour? Facile. Lorsque nous leur en voulons, que nous faisons tout pour les éviter, ou que nous les dénigrons derrière leur dos. Voilà pourquoi Paul parle ensuite du pardon. C'est notre quatrième et dernier point. Je cite verset 13. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Dans notre texte, Paul associe se supporter les uns les autres à se pardonner réciproquement. Souvent, quand nous sommes dans une situation où nous devons supporter quelqu'un, cela peut nous amener à devoir vivre le pardon. Sans pardon, plus aucune relation humaine n'est possible. La communion les uns avec les autres sans pardon est impossible. Le pardon est inévitable. Il faut le vivre, sinon ça va être difficile de vivre une communion fraternelle. Amour intense les uns pour les autres dans la durée. Le pardon est notre grand privilège. Lorsque nous sommes blessés, Nous devons choisir entre vengeance et réconciliation. Qu'est-ce que le pardon ? C'est éviter de cultiver de l'amertume. C'est désirer de tout notre cœur rétablir une relation avec amour et humilité. C'est reconnaître le tort subi sans le nier ni le minimiser si quelqu'un m'a blessé. Mais c'est aussi renoncer au désir de vengeance. C'est tout faire pour être en paix dans ma relation avec l'autre. Même si, dans le concret, la relation est peut-être devenue difficile. Je pense que chacun pourrait dire que ce qu'il y a de plus naturel, c'est de se mettre en colère et vouloir se venger quand quelqu'un nous a fait du mal et non de pardonner. Et pourtant, Dieu nous demande de pardonner d'aimer même nos ennemis. Pardonner dans la Bible n'est pas une option. Tu pardonnes si tu veux pas, c'est pas grave. C'est un ordre de Dieu. Vous vous souvenez très certainement de la prière modèle de Jésus. Il a dit quoi ? À ses disciples. Pardonne. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Quand nous réfléchissons au poids de cette prière, ça fait peur. Il n'est pas toujours facile de dire à Dieu, alors on est en pleurant la prière et puis on dit, pardonne-moi de la même manière que j'ai pardonné à ceux qui m'ont fait du mal. Pourquoi c'est pas facile de le dire? Parce que tout simplement, il n'est pas facile de pardonner. Et encore moins de la même manière que Dieu le ferait. Jésus explicite encore plus ce qu'il dit après la prière. Quand on lit Matthieu chapitre 6, toujours, mais dans le verset 14 à 15, il dit ceci. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Difficile d'essayer de mettre de l'équilibre à ce texte. Il est tellement clair. Ici, bien sûr, Jésus ne dit pas que le non-pardon, quand nous appartenons à Dieu, veut dire que c'est fini, j'irai en enfer. Il dit plutôt que notre non-pardon bloquera notre relation avec lui. Si nous ne sommes pas disposés à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, cela nous maintiendra éloignés de la relation avec lui. Il y aura entre nous et Dieu un problème à régler. Nous ne serons pas en paix parce que nous ne pourrons pas marcher dans l'intimité avec Dieu si nous refusons de pardonner aux autres. Il est tellement important de vivre le pardon pour rétablir une relation avec une personne, mais aussi pour plaire à Dieu et être en paix dans notre relation avec lui. Il y a de bonnes et mauvaises motivations quand nous vivons le pardon. J'aimerais les donner pour bien comprendre ce qu'est le pardon. Voici trois mauvaises motivations. Pardonner avec un esprit de supériorité sans compréhension de l'autre, du style « tu me fais pitié, je te pardonne ». Pardonner pour oublier et pour que ça ne nous fasse plus mal. C'est bien, mais si c'est que ça, il manque l'aspect amour dans cela. Autre chose, pardonner dans la seule condition que l'autre se rattrape en devenant gentil. Ces trois points, et on pourrait peut-être en énumérer d'autres, ne sont pas du tout l'amour que nous devons manifester à notre prochain. C'est plutôt très égoïste. Mais voici les bonnes motivations. Le texte de l'apôtre Paul nous donne cette motivation. Pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Nous devons pardonner de la même manière que Dieu nous a pardonné. Et là, c'est très fort. Vous savez, personne sur terre ne peut payer la dette que nous devons tous à Dieu. Nous avons tous péché et offensé Dieu. La gravité du péché et de nos désobéissances à sa volonté est tellement grande que nous méritons tous la mort. Le prix à payer pour être libérés de nos fautes est tellement énorme que nous sommes totalement perdus. Seul Dieu lui-même pouvait payer cette dette. Notre dette. Il est venu par Jésus-Christ. Il est devenu homme comme nous. Il donne ici, c'est par le sacrifice de Jésus-Christ. Ça a coûté. Mais comment est-ce possible d'imiter un amour aussi immense et un pardon aussi fort? J'ai envie de dire, c'est impossible. Nous avons vraiment besoin de l'action de Dieu dans notre cœur. C'est important de comprendre ça ce matin. Nous avons vraiment besoin de l'action de Dieu dans notre cœur. Nous avons besoin de l'œuvre surnaturelle de Dieu en nous. Comprendre le pardon de Dieu nous aidera à pardonner avec les bonnes motivations. Je vais en donner quatre. Nous pardonnerons aux autres parce que nous sommes reconnaissants que Dieu nous a pardonnés en Jésus-Christ. Nous pardonnerons aux autres parce que nous sommes conscients que nos fautes devant Dieu, nos péchés, sont bien plus graves que les offenses que tout le monde peut nous faire à nous-mêmes. Nous pardonnerons parce que nous ne sommes pas meilleurs que nos amis qui nous blessent. Et enfin, nous pardonnerons sans exiger que l'autre fasse quelque chose pour se faire pardonner, car Dieu nous a pardonné gratuitement. Apprenons à apprécier et mesurer à sa juste valeur le prix et la générosité du pardon entier que nous avons obtenu en Christ, ce qui nous amènera à offrir la même qualité, en tout cas on va s'y approcher, cette qualité de pardon à notre prochain, lorsqu'il nous a blessés. Je vais conclure. Comment faire quand je ne supporte plus quelqu'un? Me rappeler l'amour de Dieu. Me revêtir de l'amour. On a vu plusieurs qualités aussi de l'amour. Supporter les autres. Et enfin, pardonner. Comme Jésus-Christ nous a pardonné. Maintenant, voici quelques questions à se poser face à tout ce que nous avons pu entendre. Qui ai-je de la peine à supporter dans l'amour? Que ce soit vie de couple, vie de famille, vie d'église, au travail. Qui est cette personne que j'ai du mal à supporter? Quel aspect de sa vie ou de sa personnalité ai-je de la peine à supporter? Qu'est-ce que je pourrais faire pour arriver à mieux les supporter? Qu'est-ce qui est de mon ressort et qu'est-ce qui est du ressort de l'autre? Et enfin, dois-je pardonner à quelqu'un? Peut-être à cette personne. Quand vais-je le faire? Ai-je causé du tort à quelqu'un? Quand vais-je lui demander pardon? Dieu nous pose plusieurs questions ici parce qu'il attend de nous que nous puissions vraiment vivre les uns pour les autres. Je vais prier. Dieu notre Père, nous voulons nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Nous voulons nous supporter les uns les autres comme tu nous as supportés. Nous voulons aussi vivre le pardon comme toi, tu as su nous pardonner. Le sujet de ce matin est très difficile. Il demande vraiment que tu agisses en nous. Nous avons besoin de ton aide, de ton secours. Tu connais les situations où nous devons supporter quelqu'un, une ou plusieurs personnes. Tu connais aussi ceux et celles qui luttent, peut-être avec l'amertume, la rancœur, et qui ont du mal à vivre le pardon. Peut-être que ce sont des choses qui sont là depuis des années. Non-pardon et qui rend la vie difficile au quotidien. Là, nous demandons ton secours. Secours-nous pour vraiment t'obéir et aimer notre prochain, même quand cela est difficile. Agis, Père, pour que dans les prochains jours, les jours qui viennent, plusieurs puissent vivre le pardon dans les relations et soient encouragés et libérés. Je demande que ton église soit un lieu de pardon, de réconciliation dans les relations. Que chacun sache accepter et supporter l'autre dans l'amour, quelles que soient les différences. Que ce qui nous motive et soit notre force, ce soit non seulement ton amour, l'action de ton esprit. Seigneur, nous nous attendons à